pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h. Et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée puisque nous y sommes. Merci hein, à vous tous qui nous suivez sur la 93.5. Le Togo maintient sa dynamique d'amélioration de son indice de développement humain, IDH. Après plusieurs années consécutives d'efforts, le pays est officiellement passé dans la catégorie des pays à développement humain moyen. C'est l'une des principales conclusions du rapport 2025 du programme des Nations Unies pour le développement PNUD dévoilé hier lundi à Lomé par la ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Blamba-Johnson, avec un indice de développement humain IDH de 0,571 contre 0,567 dans le précédent rapport, soit au-dessus du seuil de 0,550 qui distingue les pays à faible IDH de ceux à IDH moyen. Le Togo se classe désormais au 161e rang mondial dans la sous-région ouest-africaine CEDEAO. Le pays maintient sa quatrième place et n'est devancé que par la Côte d'Ivoire, 0,582 dans l'espace UMOA. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse, bien sûr, nous allons en parler. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 23 septembre 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Akoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Atakpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koukouazia d'Apaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio, avec moi aussi des invités, confrères journalistes, toujours fidèle à cette émission déjà de mardi, c'est Eric Pakoudou-Johnson. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues. Madame la ministre, bonjour. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Eric, j'aime bien le dire, la ponctualité c'est aussi l'une de vos qualités.
Je ne veux pas me jeter des fleurs moi-même, mais je dis... À chaque fois que vous êtes invité quelque part, il faut y être à temps parce que, comme on dit, hein, le temps, c'est de l'argent.
Ah oui.
Ah oui, je tiens beaucoup à ça. Il ne faut pas se faire désirer. Hein, il faut être à l'heure pour que ce que vous deviez faire à temps, vous puissiez le faire parce que la vie, ça court. Il faut répondre à tous les rendez-vous à temps, tout simplement.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
Germain Doubidi, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour fidèle auditeur, auditrice. Je ne vais pas aussi vendre la mèche, mais vous aurez le loisir de...
Non, mais je pense que Eric l'a fait. Sauf qu'il n'a pas dévoilé quand même le nom. J'espère que vous allez bien.
Très bien, par la grâce de Dieu.
Dieu merci, ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission.
C'est toujours un plaisir, renouvelé, en tout cas à chaque fois, de communier avec l'auditoire et de faire le débat avec les confrères ici au studio.
Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Jeunesse, Jeunesse Info, et aussi du site internet Interface. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'autre aussi qui a accepté notre invitation, c'est Esaïe Edo. Esaïe, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Alors, je ne vous dirai pas que vous avez été moins ponctuel, mais ce qui est sûr, je sais que Eric a la ponctualité comme une qualité. Bonjour.
Et bonjour Pascal et puis bonjour à tous.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, on rend grâce à Dieu. C'est la grande forme, donc on rend grâce à Dieu.
On rend grâce à Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Focus Info. Focus Info, dont le directeur de publication est Jean-Paul Agbou-Arouelété, que nous saluons au passage. Alors Eric, vous l'avez salué, bien sûr. Je me permets aussi de le saluer. Madame le ministre, bonjour.
Bonjour Pascal.
Voilà, là je pense quand même que ceux qui reconnaissent bien la voix savent que nous sommes avec Madame Germaine Kumelo Anaté. Madame, vous êtes universitaire bien sûr et vous êtes aussi ministre, vous étiez ministre bien sûr de la communication et de la culture. Vous
êtes... Quand?
Oui, mais justement, voilà. Aujourd'hui, nous vous recevons en tant qu'auteur, parce que nous savons également que vous êtes la présidente de l'Association des écrivains du Togo, mais depuis un temps, nous avons commencé par étudier l'une de vos œuvres alors dans ce studio, c'était avec notre chroniqueur Claude Assiobotis, que vous connaissez très bien, et donc nous allons parler alors de cette œuvre, puisque la tradition veut que déjà à la troisième séance, alors de cette chronique, nous recevons l'auteur en studio. Madame, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette initiative?
Alors, merci beaucoup Pascal pour cette initiative de faire la promotion de la littérature togolaise et d'aider à décrypter cette littérature. Et à plus forte raison, les œuvres qui sont au programme, cela va aider énormément aussi bien les élèves que les enseignants. Et je vous félicite aussi d'avoir choisi un très bon chroniqueur, Assiobotis, un très bon critique littéraire. En réalité, je n'ai rien à dire à sa lecture de mes deux nouvelles que vous avez choisies, Le rapt et La colombe blessée. Tout simplement parce que il a très bien compris ces nouvelles, mais il est même allé au-delà. Et ensuite, parce que une lecture... Quand nous écrivons, nous avons une perception où voilà, nous donnons une orientation, un sens, mais le lecteur est libre de la, ça c'est la réception, de recevoir et de comprendre avec ses propres repères et comme il le souhaite. Et là, j'ai aimé la richesse et la densité de ce que le chroniqueur nous a livré sur ces deux. Et moi-même, j'étais parfois étonnée, surprise de redécouvrir ces nouvelles sous un angle ou des angles auxquels je n'avais pas pensé. Voilà.
Et c'est aussi ça le rôle d'un critique littéraire.
Absolument. Absolument.
Maintenant, on sait que les écrivains transposent dans leurs écrits leur obsession. On devine à la lecture de vos œuvres, enfin de vos nouvelles, au-delà de l'exploitation systématique du concept alors des frontières, un désir de pont. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette soif, cette aspiration dans votre vie?
Oui, on pourrait parler d'obsession parce que moi-même je me suis surprise en relisant mes six œuvres, que ce soit le roman ou les nouvelles ou les poèmes. Il y a quand même effectivement des thèmes qui reviennent et cela est guidé ou ému par, est-ce que c'est une obsession, par le désir en fait de voir notre monde se porter mieux. Par la révolte que souvent je, ou la colère même que j'éprouve face à certaines formes d'injustice, à ce que j'ai appelé dans une autre nouvelle les onirophages. C'est-à-dire que tous les systèmes, que ce soit les individus ou les systèmes, qui empêchent l'être humain, quel qu'il soit, de s'épanouir, de se réaliser. Et ça, vous allez retrouver ça dans toutes mes œuvres. Et c'est ça. Comment, voilà, on a tous droit au bonheur, on a tous droit au rêve. Voilà. Donc, quand je vois des individus brisés par d'autres ou par des systèmes, je suis révoltée. Et c'est ça qui explique. Vous allez voir qu'il y a dans ce recueil 8 nouvelles. Et chacune essaie d'aborder un aspect de la frontière. Parce que souvent, on a l'impression que les frontières, c'est juste l'extérieur, les limites extérieures. On voit plus les frontières géographiques, politiques, peut-être linguistiques. Mais il y a d'autres frontières qui sont plus intérieures et qui peuvent détruire ou construire d'ailleurs l'être humain. Et donc j'interroge aussi ces frontières intérieures qui sont des frontières psychologiques, communicationnelles, relationnelles, etc. Mais j'essaie d'aller au-delà parce que moi je suis de nature optimiste. Je suis lucide sur les choses, mais je reste optimiste parce que je pense que l'être humain a tellement de ressources en lui pour rebondir. Il ne soupçonne même pas sa capacité. Il n'y a pas de limite en réalité, quoi. C'est nous qui nous mettons des limites. Donc la frontière peut ne pas être la limite, peut ne pas être cette fermeture qu'on voit. Elle peut être un pont, un passage, une ouverture. Elle peut aider à aller plus loin. Et c'est pour ça que Frontière du jour, c'est aussi un hymne à la résilience. Comment nous sommes capables d'accuser les chocs, de rebondir, de nous reconstruire, même quand on a été détruit complètement, comme Assima ou d'autres personnages. Quand on vous a broyé, il faut dire non et puis se relever. Et moi, j'ai toujours revendiqué ça, parce que sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Se battre, reprendre sa vie en main. La vraie mort, c'est quand on cesse de bouger, de se battre. Quand on s'installe, on baisse les bras. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Je pense que c'est ça qui transparaît aussi dans ces écrits-là.
Justement, madame, comment vous définissez alors cet ouvrage? Est-ce que finalement, on pourra dire que c'est une thérapie que vous apportez quand même à ces gens-là qui ont justement cette frontière intérieure?
Non, ce n'est pas une thérapie, c'est un questionnement. Vous savez, l'écrivain, il est un peu comme un explorateur. On peut explorer le monde physique, la société, mais aussi le monde intérieur. Et quand on explore, on voit qu'il y a plusieurs types de personnages. Il y a ceux qui se laissent écraser, qui tombent, qui se laissent détruire sans rien dire. Et puis il y a d'autres qui savent se relever, dire non. Non, je ne mourrai pas. Non, je vivrai. Non, je me battrai. Non, ma vie m'appartient. Je peux me reconstruire. Donc, il y a encore d'autres. Donc, en regardant les différentes réactions face à ces situations difficiles, j'ai essayé de voir comment ces personnages réagissent et se relèvent ou non. Il y a d'autres ouvrages où d'autres pensent que parce que j'ai été malheureux, il faut rendre les autres malheureux. Alors, ils font d'autres choix. Et là aussi, on va jusqu'au bout pour voir où est-ce que ça les mène quand on fait ce choix de répondre vengeance par vengeance ou de vouloir à tout prix faire sentir aux autres ce que nous avons vécu. Mais quand on est dans une autre démarche, on dit, OK, ils n'ont pas le dernier mot, c'est moi qui ai le dernier mot, mais sans rancœur, je me reconstruis sans rancœur. Je m'appuie sur ce vécu, certes douloureux, mais pour rebondir. Donc, oui, pour certains, ça va être une thérapie, parce que pour les lecteurs, j'espère que certains lecteurs qui passent par ces phases difficiles peuvent trouver dans ces personnages ou dans ces écrits ou dans mes réflexions des éléments thérapeutiques, entre guillemets, même si ce n'est pas ça que nous visons en premier. Et puis d'autres, malheureusement, chacun est libre. D'autres diront non, moi à sa place, je n'aurais pas accueilli l'enfant de ma épouse qui m'a fait voir de toutes les couleurs, qui m'a humiliée, détruite, etc. Vous avez vu cette femme? Il y avait de quoi devenir folle, mais elle a réagi, elle a rebondi et s'est donné d'autres opportunités pour avancer.
Est-ce aussi la richesse alors d'un ouvrage, c'est-à-dire après avoir lu l'ouvrage, vous allez faire votre réflexion quand même sur l'ouvrage et savoir aussi quelle décision prendre?
Non, mon rôle, ce n'est pas ça.
Non, je parle d'un auteur.
Ah, vous parlez enfin, je parle de lecteur. Voilà, effectivement. Oui. Effectivement, le lecteur. Oui.
Justement, oh, oui.
Mais il peut aussi comprendre les choses à sa manière. Mmh. Hein, donc, il est libre. Le lecteur est libre.
D'accord. Madame, parlons du titre. Frontières, oui, mais pourquoi du jour? Alors que les frontières nous font penser plutôt à la nuit dans les relations humaines.
Ah bon?
Oui, mais justement.
Je ne savais pas que les frontières avaient une couleur. Non, non, ce n'est pas par opposition à la nuit. La frontière, elle est permanente, de jour comme de nuit. Elle est omniprésente. Et dans une ancienne présentation de l'œuvre, je disais que l'homme est un animal frontalier. Nous sommes définis par les frontières, travaillés par les frontières, intérieures comme extérieures. Et donc, c'est-à-dire que à chaque jour, ses frontières ou sa frontière. Tous les jours, nous vivons des choses, nous traversons des choses qui peuvent se présenter comme des opportunités, comme des obstacles, des difficultés. Donc, c'est ça que nous questionnons. Et la manière dont vous gérez ces situations peut vous permettre de mourir ou de vivre. Et donc, c'est pour ça que la frontière, elle est ambivalente, mais elle est aussi problématique. C'est-à-dire que si vous ne la gérez pas bien, ou vous la franchissez trop tard ou trop tôt, elle peut être problématique. Donc ça, il faut voir toutes ces situations de la vie qui peuvent se présenter comme des frontières. Alors comment vous négociez avec vos frontières, avec vos montagnes, vos difficultés, vos insatisfactions, vos frustrations, vos colères, tout cela, vos échecs? Comment vous négociez avec ça? Comment vous faites en sorte que cela soit plutôt des opportunités pour continuer à aller plus loin plutôt que des barrières qui vous bloquent, qui vous paralysent, parfois vous tétanisent? Vous allez voir des gens, la moindre difficulté, ils baissent les bras, ils sont tétanisés, paralysés. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit.
Non, mais madame, là, quelle est cette force intérieure dont l'individu doit justement se nourrir pour se relancer, c'est-à-dire, oui, il y a ces frontières qui existent déjà, vous l'avez si bien dit, comment faire pour, en quelque sorte, transcender même d'ailleurs ces frontières et pour que et ces frontières constituent alors des opportunités? C'est quoi cette force intérieure qu'on doit disposer?
La force intérieure, elle est là, elle est donnée, parfois c'est une grâce, mais aussi elle se nourrit de nos éducations, de nos valeurs, de nos vécus, de nos choix. Pour certains, ça va être la foi en Dieu, en une transcendance, une force supérieure qui me soutient. Je sais que seul, je ne peux rien, mais si je m'appuie sur cette force qui me dépasse, qui est plus forte que moi, je peux tout vaincre. Donc, pour beaucoup, la foi, c'est un moteur, c'est cette force intérieure. Pour d'autres, simplement, ils ont réussi à se bâtir une psychologie, comme on dit, à toute épreuve forte, qui fait que, ok, ça m'arrive, mais c'est rien, je peux. Et s'appuie sur cette psychologie. Dans tous les cas, il faut avoir un psychologique fort. En même temps qu'il faut aussi avoir des épaules fortes, comme on dit, ou le dos large pour encaisser. Et ça, parfois l'éducation nous aide, nos expériences, nos lectures aussi nous aident. On a des modèles, parce que si telle a réussi, moi aussi je peux réussir. Voilà, donc maintenant, il y a d'autres, malheureusement, au niveau psychologique, qui sont plus faibles. Et là, si vous n'avez pas des alliés, des soutiens, de bons conseillers pour vous aider à travailler votre mental, à rebondir, vous pouvez avoir plus de difficultés que les autres. Mais je dis encore une fois, l'homme est capable de beaucoup plus qu'il ne le pense. Et souvent, nous passons notre temps à nous sous-estimer. Mais il faut se faire confiance. Donc, c'est ça aussi, ça passe aussi par la confiance en soi, l'estime de soi. Et ce qu'on veut être. Voilà. Et s'accepter.
À vous écouter, j'ai l'impression que j'écoute un cours de développement personnel, madame.
Ah ben c'est ça la vie. Hein. C'est ça la vie de tous les jours.
Justement. Eric a certainement une question pour vous. Eric ?
Non. En écoutant, madame la ministre, je voudrais juste lui demander si je dois la considérer comme une idéaliste.
Non, une réaliste, une femme lucide, une femme très tôt qui a été confrontée à beaucoup de situations difficiles, qui a été brisée, mais qui a dit non et qui a rebondi. Et une femme même, souvent je le dis, qui revendique même le droit à l'erreur. Parce que les erreurs, les échecs, pour moi, ce n'est pas grave. Parce que c'est des leçons de vie. C'est-à-dire comment, qu'est-ce que voilà, nous faisons de nos erreurs, de nos échecs. C'est là où se trouve notre force. Si de l'erreur, je tire une leçon pour rebondir et avancer, me corriger ou aller plus loin, oui, je ne suis pas idéaliste. Je suis pragmatique et je suis réaliste, je suis lucide. Et je refuse. Pourquoi se laisser mourir serait mieux que de dire non, je suis venu pour vivre. Je suis créé pour être heureux, heureuse, et je me donne les moyens de réaliser ce bonheur indépendamment des circonstances, des différents facteurs. Oui, et ça, moi je parle aussi d'expérience parce que je dis, si ce n'était pas ça, cette fois, je ne serais pas avec vous aujourd'hui.
D'accord. Et donc, dans vos écrits, quand vous parlez de frontières, je me dis, les frontières, là, ces frontières nous enferment. Et ces frontières également nous protègent. Est-ce que c'est de ça il s'agit dans vos écrits?
Alors, les frontières nous enferment si nous leur donnons ce pouvoir de nous enfermer.
Ah ouais.
C'est de ça qu'il s'agit. Elles peuvent être des opportunités et nous ouvrir à d'autres espaces. Une frontière, c'est un entre-deux aussi,
ouais.
Comme les ponts.
Ouais.
Ça peut être un pont pour aller vers un ailleurs, peut-être meilleur, peut-être pire. Mais tant que vous continuez, vous êtes dans le mouvement, vous retomberez toujours sur le bon chemin. Je reprends ça dans le regard de la source qui est le roman, en parlant de comme le carrefour. C'est-à-dire que j'avance et puis j'arrive à un carrefour, je ne sais pas quel chemin prendre. Il vaut mieux prendre n'importe quel chemin et se perdre que de s'installer au carrefour. Si vous vous installez au carrefour, vous êtes perdu.
Ça devient,
devient un vrai problème.
Mmh.
Alors que si vous avancez, même si vous réalisez en tant que vous êtes perdu, vous trouverez nécessairement une passerelle pour revenir sur vos chemins. C'est pour ça que même la prison, pour moi, n'est pas une frontière fermée. Parce qu'on a des exemples quand même, des gens qui, dans une prison, se réalisent. À partir
de la
découverte. Je dis certaines personnes.
Ouais.
Parfois, il faut de l'accompagnement.
Mmh.
À partir de l'introspection, la redécouverte de leurs erreurs ou des lectures, des rencontres, des échanges, ils se reconstruisent. Certains, au-delà même des métiers que d'autres apprennent, certains rentrent sans métier, ils apprennent un métier, ils ressortent là-bas avec un métier. Ça, c'est une opportunité. D'autres, c'est les frontières intérieures qu'ils vont briser ou transcender pour se projeter en une autre personne, la meilleure version d'eux-mêmes, par exemple. OK. Mais ceux qui veulent être détruits doublement vont être détruits doublement. Donc, il y a le choix de l'individu qui intervient à ce niveau face à ces frontières qui ne sont pas que... Même un obstacle est une opportunité, en fait.
Ouais.
Donc, il y a des frontières fermées que si nous décidons d'être enfermés.
Alors, où est-ce que vous placez alors les frontières politiques?
Oui, même les frontières politiques ne sont pas un enfermement. C'est pour ça que souvent, j'aime parler de négociation.
OK.
Il faut savoir négocier avec les frontières pour qu'elles ne vous détruisent pas. Même avec les gens difficiles, on négocie. Donc, dans tous les domaines, en politique, en économie, les relations entre partout, c'est la négociation qui est le maître mot. Hein. Si vous voulez aller de façon... Certaines frontières, vous les voyez, c'est une montagne. Vous voulez aller de façon frontale, qu'est-ce qui va se passer?
Vous cognez.
Vous cognez et vous tombez. C'est ça.
Ouais.
Mais si vous avez des stratégies pour contourner ou trouver le moyen d'escalader, vous arriverez à destination et les gens vont être étonnés comment il a fait. Donc c'est une question aussi d'intelligence des situations qu'il faut développer, une forme de sagesse qu'il faut cultiver, développer face aux différentes situations. Et en politique... Les compromis, ce n'est pas les compromissions. Mais
ouais.
Vous allez voir des gens qui font l'amalgame entre compromis et compromission.
Compromis.
Le compromis, on est dans la négociation. Mais quand vous refusez les compromis, vous n'avancez pas. Vous n'avancerez jamais. Vous allez être bloqué. Et là, vous avez fait de vos frontières un enfermement. Et c'est votre choix.
Germain Doubizi,
En écoutant madame, effectivement, Erika a marché un peu sur ma langue par rapport à la question de l'idéalisme. Bien évidemment, on a bien envie de poser la question à madame. Est-ce que elle n'a pas un certain idéalisme justement qui tranche plutôt avec la réalité? Ou soit c'est votre optimisme peut-être qui vous fait voir la vie de cette façon? Parce que par exemple, quand on prend cette quepoute qui recueille son enfant, justement, oui, ça arrive, mais 1 sur 10 000, c'est pas trop, hein, donc je n'ai pas la probabilité exacte, mais est-ce que vous n'êtes pas trop, peut-être trop optimiste?
Où serait le mal?
Non, on a bien envie de savoir.
Oui, je vais mieux m'expliquer. Ce n'est pas les statistiques. Tout ce que j'ai expliqué, c'est de dire, voilà, il y a 2 chemins, parfois 3 ou plus. Donc, face à une situation, chacun a le choix à faire. Quel choix tu fais? Donc, c'est à chacun de répondre. Asima, elle a fait son choix. On ne va pas lui reprocher d'avoir voulu faire ce choix pour dire, OK, mais c'est pas un optimisme bien parce qu'elle a été détruite. Mais elle a choisi de se reconstruire. C'est pour ça qu'on parle de résilience. Oui, j'ai reçu un choc. OK, je vais rester par terre ou je me relève. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a choisi de se relever. Mais d'autres seraient restés par terre. D'autres vont se relever, mais avec des mauvais moyens, parce qu'on va continuer à garder la rancœur, à incriminer, juger, condamner, X, Y. Et ça aussi, ça ne fait pas avancer. Donc, je veux rester l'éternel optimiste. Je veux même rêver, rester l'idéaliste. Pourquoi pas?
Ah ouais.
Pourquoi pas? c'est ça. Nous sommes tous, faut pas faire aussi la politique de l'autruche. Chacun d'entre nous traîne des traumatismes. Nous sommes tous quelque part blessés, brisés par des choses. Mais si vous et moi sommes ici, c'est que vous-même, vous avez choisi d'avancer. Donc c'est ça, la résilience. Ce n'est pas un optimisme bien. Okay? Je suis consciente de la situation, mais je rebondis, je me donne les moyens de continuer à avancer, parce que le cycle de la vie, c'est ça. Quand tu n'avances pas, tu meurs.
On l'avait répété à maître reprise que oui. Vous êtes une femme lucide. Là, ça se comprend. Oui, Esaïe.
Non, je n'ai pas de questions. Je dirais simplement que j'ai hâte de lire l'ouvrage parce que, écoutez, madame, je me dis qu'il y a certainement beaucoup de leçons ou d'enseignements que regorge l'ouvrage. Donc, j'ai hâte de le lire.
Félicitations. Maintenant, nous avons encore quelques minutes.
Hein, vous
pratiquement
dit, hein.
2 minutes pour parler de l'AET, c'est-à-dire l'Association des écrivains du Togo que vous présidez. L'Association des écrivains du Togo sonne comme une fêtière hein, des associations littéraires ou y aspire. Madame, avez-vous le sentiment d'avoir atteint ces objectifs?
L'objectif, c'est de la promotion de la littérature togolaise et des écrivains togolais. Et cet objectif, on ne l'atteint pas une fois pour toutes. Nous le construisons, nous poursuivons, nous avons des stratégies pour cette promotion à travers les cafés des auteurs, cafés littéraires, les conférences, la journée internationale de l'écrivain africain que nous célébrons chaque 7 novembre, etc. Donc, c'est à chaque étape qu'on essaye de faire connaître davantage la caravane littéraire qui nous amène à sillonner certaines régions du pays, à amener les écrivains, leurs ouvrages vers le public. Oui, on a été en partie, parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons de plus en plus des auteurs togolais qui sont étudiés à l'école, dans nos programmes scolaires. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans ou voilà, un peu en arrière. Mais c'est un combat permanent que nous poursuivons, avec, pas tout seul, avec l'aide de tous les acteurs de la chaîne du livre, aussi bien vous-même les journalistes, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous nous aidez à atteindre cet objectif, les journalistes culturels, littéraires, qui se spécialisent, on en a besoin, des émissions comme celle-là, on en a encore besoin, davantage besoin. Il y a les éditeurs, il y a les libraires, les ministères, etc. Mais c'est sûr que il faut faire davantage. Mais en réalité, ce n'est pas l'écrivain qui doit faire la promotion. Chacun a son rôle. C'est parce qu'il y a un vide ici. Il y a un vide que l'écrivain fait tout. Nous organisons même des festivals, des salons. Mais ce n'est pas à nous. C'est aux promoteurs culturels, normalement, de prendre en charge ce volet en collaboration, bien entendu, avec, avec nous. Et nous, nous nous battons aussi pour ça.
Madame, je vais peut-être vous décevoir, hein, oui. Parce que moi, ça fait plusieurs années que j'ai une page culturelle,
oui.
Et que j'anime dans mon, mon tabloïd. Mmh. Mais à chaque fois que vous appelez un écrivain,
oui.
Pour discuter avec lui, vous voyez, ce jeune homme également, il a même une organisation qui prime les auteurs et tout ça. Mmh. Et à chaque fois, je me plains. Comment quelqu'un peut-il sortir un ouvrage, vous l'appeler pour une interview ou pour expliquer, en quelque sorte, la trame de ce qu'il a sorti, et il est incapable de vous recevoir, ou si des histoires, je ne suis pas là, rappelez-moi, des trucs comme ça. À quel moment, nous, en tant que journalistes, nous pourrons vous apporter ce que vous êtes en train de nous demander?
Ok, bon, ça encore, c'est une question de personne. Vous avez fait cette mauvaise expérience, mais je ne pense pas que c'est tous les écrivains qui refusent de répondre. Et quand c'est le cas, peut-être qu'il faut aussi aborder son éditeur ou venir aussi vers l'association.
Et le plus souvent, je vous le cache pas, oui, le plus souvent, c'est l'éditeur, oui. Qui nous donne le contact.
Absolument.
Et vous appelez, ils sont incapables de vous recevoir, de discuter avec vous. Alors que nous, c'est ça qui doit forcément animer notre page.
Bien sûr.
Bon, je suis désolé.
Donc, il faudra qu'on en rediscute pour voir comment on peut vous aider. Parce que vous savez que l'AIT a été la première structure même à créer une revue littéraire, Reflet. Que nous appelions Reflet, qui a duré un temps, même a animé une émission sur la TVT.
Bien sûr.
Voilà. Donc, nous tenons vraiment à cette promotion, visibilité de la littérature. Donc, on pourra voir quelle collaboration avec l'AUT pour vous accompagner.
Maintenant, nous allons terminer cet entretien, hein, avec cet exercice-là que nous allons faire avec vous. Alors, vous êtes aussi cité dans le paysage littéraire comme poète. Et pouvez-vous nous indiquer quelques publications dans le genre et nous lire un poème en rapport avec la notion des frontières ou en rapport avec ces problèmes ou l'aspiration d'une femme que vous êtes?
Alors, j'ai un roman, Le regard de la source, Frontières du jour, mais il y a 4 recueils de poèmes. Les cris du silence, les cris ou le cri, vous l'entendez comme vous le souhaitez. Là où je ne suis pas, comment ça s'appelle? Souffle court, et puis Si tu savais, en 2016, le dernier, Si tu savais. Je ne vais pas vous lire en lien avec les frontières, mais en lien peut-être avec la résilience dont il a été question.
Ça nous intéresse, oui.
Bon, je ne sais pas combien de temps j'ai. Deux petits minute, poèmes. C'est une minute. Ok,
une minute.
Okay. Donc si c'est une minute, oui. Donc je choisis un seul.
D'accord.
Vivre. Vivre, c'est mourir et ressusciter chaque jour de nos choix et folies, de nos échecs et erreurs, de nos frustrations et attentes, de nos peines et tristesses, de nos peurs et soupirs, de nos soifs et faims, de nos intranquillités, de nos guerres. Vivre, c'est mourir et ressusciter chaque jour de nos abaissements et relèvements, de nos dons et accueils, de nos larmes et rires, de nos quiétudes et espoirs, de nos exaltations, de nos émerveillements. Vivre, c'est continuer à avancer chaque jour, même lorsqu'on perd son chemin. Vivre, c'est apprendre à recommencer chaque jour, lorsqu'on se trompe, lorsqu'on a oublié de vivre, avec des petits pas qui vous empêchent de mourir et vous maintiennent dans le mouvement du cycle de la vie.
J'ai envie de vous écouter lire ces poèmes pour tout au long alors de cette émission. Bien, le temps nous fait défaut. Merci. Voilà. Merci d'être passée chez nous, madame.
Merci à vous pour l'invitation. J'aurais voulu participer au Club de la Presse, mais je ne suis pas journaliste.
Non, mais ça ne nous empêche pas.
Ça ne nous empêche pas. De toute façon, vous y restez.
Hein. Même vous m'invitez, je reviendrai.
Non, vous restez avec nous.
Merci beaucoup. merci beaucoup, madame. Merci. Madame Koumialo Germain-Anaté, d'être passée alors dans cette émission. Vous nous avez expliqué beaucoup de choses, bien sûr, et sur votre ouvrage et sur ces ouvrages, quand même, que nous avons eu à étudier avec Claude Assiobotis. Nous reviendrons largement là-dessus. Vous recevrez encore notre invitation, puisque les portes alors de Canal FM sont grandement ouvertes pour vous, madame.
Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
À bientôt. Voilà, nous continuons l'émission avec ce sujet. Ce sujet, j'en parlais déjà dans mes mots introductifs. Et Eric, vous êtes revenu là-dessus. Je veux bien parler alors de ce sujet, alors d'indices humains. Le Togo qui maintient sa dynamique d'amélioration de son indice de développement humain, IDH, et c'est après plusieurs années consécutives d'efforts, le pays est officiellement passé dans la catégorie des pays à développement humain moyen. Vous êtes revenu sur le sujet, le journal L'Union, bien sûr. Vous écrivez « Développement humain, le PNUD remet son rapport 2025 au Togo. Le Togo occupe le deuxième rang au sein de l'UMOA et le quatrième dans la CEDEAO. » Alors, Eric, on a envie de savoir qu'est-ce que ça change concrètement si le Togo occupe alors ses rangs.
Ce que ça change, c'est en réalité la vie des citoyens, de tous les citoyens du pays. C'est vrai que il y a un mouvement qui, pendant longtemps ou depuis un certain temps, est en train de nous dire que, évidemment, nous avons faim. Nous avons faim, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'efforts à faire que ce qui est fait. Toutefois, je voudrais faire savoir qu'il y a un seuil qu'on appelle le seuil de développement humain, qui est de 0,550 points. Et lorsque vous atteignez ce seuil-là, c'est que vous passez d'une étape à une autre. Il y a les pays à faible indice de développement humain qui sont en dessous de ce seuil-là et des pays qui sont au-delà de ce seuil-là, qui sont des pays à indice de développement humain moyen. Et donc, je crois que fondamentalement, la question que tu m'as posée, c'est que il faut qu'on sache tout ce qui rentre dans cet indice de développement humain. Et là, nous parlerons
d'assurance de vie,
de l'éducation, de la santé, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, et l'accès à l'assurance et tout ça. Et donc, je crois que le rapport que l'on nous a présenté hier et que le PNUD a officiellement remis au gouvernement togolais, ce rapport nous dit que le Togo fait des efforts, mais quand vous regardez l'ambiance dans le pays, c'est que ces efforts-là sont véritablement insuffisants. Et pourquoi ?
Mais est-ce que ça aussi, ce n'est pas la réalité ?
Oui, mais c'est clair que c'est la réalité. Mais toutefois, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau de bain. Et il faut savoir qu'il y a des efforts qui se font, mais chaque jour, les défis sont encore plus grands. Et donc, comme je disais, avec tous ces facteurs-là qui rentrent, ce sont des indices que l'on donne. Et donc, le PNUD a remarqué quand même que le Togo fait des efforts en allant. Il y a également, il ne faut pas oublier, parce que le thème même de ce rapport qui a été présenté hier fait parler de l'intelligence artificielle. Donc, il y a aussi la fracture numérique qu'il faut insérer dans ces indices-là pour pouvoir savoir qu'il y a un effort qui se fait. Et donc, le PNUD a expliqué clairement que malgré les situations que les pays ont vécues, en parlant surtout de 2020 avec le coronavirus et tout ça, la résilience de certains pays, comme le Togo, a fait quand même que ces indices-là ont augmenté. Et donc, ce qui fait que le Togo quitte les pays à indice de développement moyen aujourd'hui vers des indices de développement humain, pardon, faible à moyen. Mais donc, si tu veux, nous pourrons revenir dans les détails qui ont été fournis hier.
D'accord. Oui, Germain, est-ce que ça veut dire avec ce rapport qui a été justement rendu public, est-ce que ça veut dire que tout change autour de nous, tandis que nous avons l'impression que rien ne change?
Oui, en fait, c'est la bonne question. Je suis d'accord avec la question. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait de façon endogène pour que on arrive à des résultats comme le rapport vient de le signifier, comme que le Togo est maintenant au-dessus justement de l'indice de développement faible. Parce que comme Eric le dit, l'IDH mesure trois dimensions. C'est-à-dire qu'il y a le niveau d'instruction, il y a le niveau de la santé et le niveau de vie. Donc c'est un indice compositif contrairement au PIB qui mesure justement la richesse d'un pays au bout d'une année. Or, si on prend cette valeur numérique, on n'a pas quand même une connaissance approfondie des dimensions qualitatives comme le niveau d'instruction, comme la santé et comme la longévité. Et donc, si le Togo passe de maintenant au-dessus de l'indice de développement faible, ça veut dire que sur toutes les dimensions qui composent l'IDH, quand on prend par exemple le niveau de l'instruction, il y a des variables justement concernant l'alphabétisation, le niveau d'instruction et tout. Et donc, il y a un certain nombre de constats qui se font parce que c'est mesurable, qui font que nous avons une avancée justement. Donc, au cours d'une année, parce que l'IDH était mesuré chaque année, et donc ça veut dire que au fil des années, le Togo garde une certaine constance par rapport à l'amélioration. Vous voyez par exemple la distribution des kits scolaires qu'on avait offert aux filles ou à majorité, 100 000 je crois filles, ça rentre justement dans cet équilibre dans l'éducation justement, l'accès aux moyens éducatifs, ce qui fait que toutes les actions qu'on mène au jour le jour contribue à une certaine amélioration, et quand c'est quantifié, eh bien, on trouve que le pays avance, justement.
D'accord. Zahir, c'est vrai que, ces derniers temps, vous allez écouter dans l'opinion, nous avons faim, les choses ne marchent pas, il y a un certain nombre de choses quand même qu'on écoute souvent. Est-ce que ça veut dire que l'impact alors de ce rapport que nous venons d'avoir ne se sente pas au sein alors de la population?
Oui, je pense qu'il faut quand même relever que le rapport a tenu compte d'un certain nombre de choses, d'un certain fait qui sont mesurables sur le terrain, parce qu'on ne va pas établir un rapport juste en l'air comme ça. Mais l'autre chose aussi, c'est que la réalité, est-ce que le rapport traduit la réalité que nous vivons? Je crois que c'est là où le questionnement intervient. Parce que, comme vous le dites si bien, dans le quotidien du Togolais, on a l'impression que rien ne se fait. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous allez dans tous les secteurs d'activité, tout le monde se plaint. Ce qui voudra dire que, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Au même moment, il y a ce rapport qui fait savoir qu'effectivement, il y a des avancées. Ce qui voudra dire que, effectivement, il y a des avancées. Eric l'a dit tout à l'heure, il y a des avancées, mais les défis sont plus, plus grands ou plus nombreux que ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sentons pas l'impact de cela. C'est comme vous savez que vous allez parcourir peut-être 10 kilomètres, mais jusque-là, vous avez fait entre une heure et deux heures, vous avez fait peut-être un kilomètre. Mais au même moment, il y a 9 kilomètres qui vous restent. Ce qui voudra dire quoi? Ce qui reste, la distance qui reste à parcourir est plus grande que celle que vous avez déjà parcourue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne ressentons pas réellement. Et je crois, à mon humble avis, que c'est là où nos autorités, je les interpelle tout le temps, c'est là où ils doivent voir comment faire la chose pour que ce ne soit pas juste une partie de la population qui ressente les efforts qui sont consentis, mais que ce soit toute. Enfin, on ne peut pas aller du jour au lendemain à toute la population, mais il faudrait quand même que la majorité ou encore la grande partie de la population puisse ressentir ce qui est en train d'être fait.
Eric, moi j'ai envie de savoir, est-ce que c'est parce que les populations en demandent trop, ou du moins les besoins sont de trop, de telle enseigne que finalement les petits pas qui sont faits ne sont pas aussi observables?
Non, il faut déjà se dire que nous venons de très loin. Alors, le taux de pauvreté était effectivement énorme. Et donc, si nous disons qu'il n'y a pas d'impact directement sur toute la population, là encore, c'est que nous considérons une partie, une frange de la population. Parce que quand vous quittez les villes, vous allez dans les hameaux les plus reculés, vous sentez les impacts de tout ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain temps, beaucoup d'enfants restaient à la maison. Par exemple, si nous prenons l'éducation, beaucoup d'enfants restaient à la maison, ils n'allaient pas à l'école, et donc le taux d'analphabétisation était très fort. Aujourd'hui, quand on a dit l'école primaire et secondaire sont totalement gratuites, vous comprenez qu'il y a plus d'enfants qui se retrouvent à l'école. Et ça joue dans l'indice de développement humain, parce que ça permet quand même une certaine qualité de vie dans ces milieux où les enfants arrivent désormais à aller à l'école. Il donnait l'exemple tout à l'heure des 100 000 kits qui ont été offerts aux jeunes filles. Alors, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que à un certain moment, ces filles-là ne pouvaient pas fréquenter parce qu'elles n'avaient pas de fourniture scolaire. Parce que ces filles-là étaient complètement sorties du système éducatif. Mais lorsqu'on leur remet ces kits-là, alors elles retrouvent l'école. Même si les conditions de vie restent encore un peu difficiles. Néanmoins, ces filles-là retournent à l'école. Il y en a qui n'arrivent plus à fréquenter tout simplement parce que les parents n'ont pas les moyens de leur fournir ces fournitures scolaires. Nous allons plus loin. Lorsque nous disons que, par exemple, nous prenons l'accès à l'eau potable, dans certains milieux, pour trouver de l'eau potable, vous allez faire 10 km et plus. Mais aujourd'hui, avec l'installation des forages dans des milieux, on se dit, entre deux villages, 5 km, etc. Donc, ça rapproche les populations de points d'eau potable. Et donc, ça aussi, ça agit sur le développement humain. Et donc, autant d'exemples qu'on peut donner, toutefois, il ne faut pas se leurrer, c'est réellement insuffisant. Parce que vous savez, le taux, l'indice de développement humain va de 0 à 1, selon ce que le PNUD a établi comme indice. Donc, vous voyez, la moitié, c'est 0,5. Et donc, ici, on dit quand vous êtes à 0,550, en bas de ça, vous êtes dans les pays à indice de développement faible, au-delà moyen, et quand vous allez jusqu'à 0,8, etc., vous êtes dans les pays à indice de développement fort. Et donc, je crois que c'est vrai, il y a des efforts qui se font, mais il faut que cela impacte véritablement la vie du citoyen. Tu m'avais posé la question premièrement pour savoir ce que ça fait au sein de la population, c'est réellement cela.
D'accord. Oui, Germain.
Non, en fait, par rapport à la question des petits pas qui sont faits, est-ce que ce n'est pas perspective. Donc, en tout cas, il y a deux sortes de perceptions. C'est la perception de ceux qui, en tout cas, peut-être objectivement, quantitativement, ou mesurent ces petits pas, comme le PNUD qui mesure et trouve que, en fait, que le Togo est au-dessus de
l'indice de développement. Mais justement, c'est parce qu'on a l'impression qu'on ne voit rien. Oui, est-ce que ça veut dire que nous, nous ne savons pas apprécier?
Non, non. La seconde perception qui, dans notre champ, qui est là, c'est la perception politique aussi. Il y a une perception politique qui nourrit justement une certaine rhétorique par rapport au combat politique. Malheureusement, c'est aussi ça. Parce que tout ce qui concerne le développement, à mon sens, ça devrait se résumer à la question de développement. Et peut-être, objectivement, on voit le niveau où on se situe pour que quels sont les éléments objectifs qu'il faut apporter pour améliorer le quotidien des populations. Donc, le PNUD a en tout cas des mesures qu'il apporte au gouvernement togolais. Donc, c'est au gouvernement de voir là où il faut encore corriger le tir à chaque niveau. Et donc, tout n'est pas encore rose, tout n'est pas encore terminé. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'indice des droits des pays très, très élevés. Nous ne sommes pas à un indice de développement très élevé. Nous sommes au-dessus de l'indice de développement faible. Donc, ça veut dire que nous avons des pas encore à faire. Le pays a encore des pas à faire. Le pays a encore doit améliorer sa gouvernance ou sa politique de développement sur certains aspects. Maintenant, il y a aussi, comme je le dis, cette perception politique qui veut que tout le monde a faim dans le pays, que personne ne trouve à manger, qu'il n'y a ni de l'eau ni de l'électricité au Togo, qu'au Togo, en tout cas, toutes les femmes accouchent par terre. À l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Tout est, comment le dit-on, noir. Il y a cette perception politique aussi, justement, qui nourrit le combat politique. Donc, c'est aussi ça. Ce sont ces deux visions. Et je trouve qu'il faudrait plutôt qu'on ait des perceptions, on ait en tout cas des critères d'évaluation qui viennent des institutions, qui soient peut-être
neutres. C'est des critères objectifs.
On donne des perceptions pour qu'on puisse. Mais de l'autre côté, vous aurez des perceptions politiques qui vous diront que tout est rose dans le pays. Hein. Vous aurez les acteurs politiques qui vous diront que le Togo est déjà un grand pays développé, qu'il n'y a rien à corriger. Vous verrez tout ça là-bas.
Mais justement, ce ne sont pas les deux extrêmes-là qui nous tuent.
Oui, justement, c'est ça qui nous tue. Donc, il faut laisser les perceptions politiques pour qu'on ait des perceptions objectives, qu'on sache là où nous venons et où nous devons aller. En tout cas, moi, c'est ce à quoi je demande qu'on s'attelle.
Oui, mais Esaïe, est-ce que vous avez aussi cette impression que déjà quand on prend les perceptions politiques, on voit quand même qu'il y a deux extrêmes. Il y a certains qui viennent et vous disent, mais écoutez, ça coule alors du miel ici. Oui. Et d'autres quand même qui vous disent, non, mais écoutez, tout est noir ici. Est-ce que ça ne joue pas également sur nous?
Non, moi je ne veux pas aller sur ce terrain de perception parce que pour moi, je parlerai plutôt de la réalité, ce qui est palpable sur le terrain. J'ai l'habitude de dire que nous aimons tout politiser, mais ici nous sommes en train de parler de ce qui est social, ce qui concerne tout le monde, que tu sois
acteur, et du développement.
Oui, justement, que tu sois acteur politique ou non. Du coup, je pense qu'il est véritablement important que nous tous nous soyons d'accord sur le fait que la réalité voudrait que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui fassent davantage. Parce que quoi? La réalité selon laquelle les choses ne vont pas bien est plus élevée que les impacts que les efforts qui sont faits ont. Nous le disons tout à l'heure que c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, mais l'impact de ces efforts comparativement à ce qui reste à faire encore, il y a un grand écart. Et c'est sur ce point justement, comme je le disais, qu'il faut qu'on s'entende, et ça revient, que vous soyez politique ou non, c'est une question de développement et chacun à son niveau doit s'impliquer pour que l'écart qui est là soit comblé, pour que nous tous nous voyons dans les jours à venir l'impact des efforts, ce qui voudra dire qu'il faut faire davantage.
Mais Esaïe, oui, est-ce que c'est pas ça aussi le problème au Togo? C'est-à-dire, quand on parle alors de développement, on a du mal quand même à rassembler notre énergie quand même pour faire ce développement en question.
Oui, justement, on l'a vu quand il s'agissait de gérer les communes. On a vu que dans les communes, ce sont des personnes qui viennent de différents bords politiques et au moment des prises de décision, il y a des gens qui veulent influencer parce qu'ils viennent de tel parti. Il y a d'autres qui veulent s'opposer pour qu'on ne dise pas que c'est l'autre parti qui a fait. Malheureusement, c'est aussi ça, la réalité. C'est triste pour nous. Maintenant, au niveau du sommet de l'État, il faut que l'État soit en mesure justement de trouver une solution à cette petite querelle que nous voyons en matière de geste. Parce que c'est aussi ça le développement local, c'est la base en fait. Si au niveau du développement à la base, les gens ne s'entendent pas pour travailler, de se mettre ensemble pour travailler, ça va agir également au niveau de l'État sur les prises de décision. Parce qu'il y a des initiatives qui sont prises au niveau du sommet de l'État qui doivent être exécutées au niveau à la base. Donc, si à la base, les gens ne s'entendent pas pour des raisons politiques, on aura toujours le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc, déjà, en attendant que les communes, les maires ne soient installés, il faut que ceux qui sont appelés à cette responsabilité commencent déjà à voir dans quelle mesure on peut collaborer ensemble et mettre de côté, ça je l'avais dit ici, mettre de côté les couleurs politiques et travailler pour le développement des communes.
Eric, on va quitter le sujet, on va s'intéresser. Non,
je voudrais peut-être dire un dernier mot sur le sujet. Malheureusement, quand nous nous mettons à évaluer ce qui se fait dans le pays, comme le disait tantôt Germain, c'est que nous n'avons pas, nous, en tant que citoyens, des indicateurs pour pouvoir évaluer ce qui se fait. Mais quand je prends le PNUDS, qui a ces indicateurs-là et qui les présente en disant, dans ce domaine, voilà les efforts qui ont été faits. Et à la fin, comme chaque rapport, il y a toujours des recommandations. Les recommandations qui vont dans le sens que tout doit être amélioré. En aucun moment, c'est dit que, bon, voilà, vous avez atteint un seuil et donc ne continuez plus. Mais plutôt, il faut faire encore plus d'efforts. Tu demandais tantôt si les demandes ne sont pas plus élevé que les offres, les réalisations. Je dis, il n'y aura jamais de fin pour des réalisations. On réalisera toujours, même si on atteint un seuil à indice de développement élevé.
D'accord.
Et donc, je crois
même
que...
Même de fin pour des demandes.
Ouais.
On n'aura même pas de fin pour des demandes.
Oui, mais voilà, je voudrais qu'on quitte le sujet. On va parler maintenant de cette affaire, affaire Niakade. Et vous le savez que déjà dans le week-end dernier, il y a eu plus de précisions, même d'ailleurs, sur cette affaire où les chefs d'accusation ont été notifiés. En tout cas, dans les explications alors du procureur de la République, nous avons compris qu'il y a des chefs d'accusation tels que l'incitation à la révolte contre l'autorité de l'État, publication de fausses nouvelles de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées, troubles aggravés à l'ordre public et entraves au bon fonctionnement de la justice. Voilà, ce sont là en quelque sorte les chefs d'accusation qui sont contre justement alors Madame Niakade. Alors, Eric, quand vous avez écouté ces explications et aussi ces chefs d'accusation, est-ce que ce n'est pas aussi fort quand on écoute ces chefs d'accusation?
Oui, évidemment, c'est très fort. Évidemment, c'est très fort, sauf que nous n'avons pas, nous autres, toi et moi, nous ne pouvons pas donner des explications à tout ceci. Parce que dès le départ, dès qu'elle a été interpellée, on se demandait, mais c'est quoi les chefs d'accusation? On attendait justement le procureur de la République pour venir nous dire quelque chose. Aujourd'hui, il nous a dit quelque chose. Maintenant, je pense que au niveau où ça se trouve, c'est qu'il faut aller à un jugement pour savoir si elle est coupable ou non. Toutefois, je fais savoir que cette affaire ou ces affaires sont en train de créer une certaine psychose dans le pays. Aujourd'hui, quand vous allez dans les administrations, qu'elles soient publiques ou privées, les gens ne prennent plus le temps de travailler. ces histoires-là qu'on vous sort, voilà, ceci, cela. Et ça fait que les gens ne travaillent pas. Je suis désolé de dire cette réalité que nous vivons aujourd'hui.
Mais c'est quoi le rapport, Eric?
Le rapport, c'est que, je disais tantôt, que ça crée une certaine psychose. Et comme il n'y a pas d'informations justes pour que les gens puissent savoir ce qui se passe et se taire pour travailler, ça agit sur le travail des uns et des autres. Nous, c'est un truc qui est palpable, que tout le monde voit. Et moi, je dis, il faut que la tension rebaisse parce que le pays a trop de défis. Il faut que tout ça là, que chacun mette un peu d'eau dans son vin, hein, pour qu'on passe à autre chose. Parce que les jours sont toujours difficiles pour les citoyens. Et donc, il faut que tout ça là s'arrête. Oh, enfin, oui, et dans un pays, il y aura toujours hein, des cas comme ça. Mais il faut que ça se gère d'une certaine manière, excusez-moi, mais plus intelligente hein, que ce que nous voyons. Hein. Je le dis parce que moi, quand je vais pour un dossier, au lieu qu'on me traite le dossier, on commence par me parler de ces histoires, je dis oui, on va en parler deux minutes, mais après on travaille, quoi.
Mmh. Voilà. Jamais, est-ce qu'on pourra avoir l'impression qu'à un moment donné, Mme Nyakadet était devenue dérangeante?
Je n'ai pas cette impression. Au fait, c'est une situation comme tant d'autres, et elle était membre...
Je le dis parce qu'on a vu quand même ses sorties.
Elle était membre du gouvernement, et puis à un moment donné, elle ne sait plus... En tout cas, elle n'est plus à l'aise où il y a eu certaines situations et qu'elle n'est plus dans le gouvernement. Elle a trouvé qu'il serait mieux d'être opposante au régime et d'avoir une autre conception, parce qu'elle était dans le pouvoir, elle a eu une conception de la gouvernance. Elle est sortie du gouvernement, elle a maintenant une autre lecture, justement, c'est un choix libre. On a vu lorsque elle a voulu marcher tout récemment, que la manifestation n'avait pas été autorisée, elle a été priée tout bonnement de rentrer chez elle, n'a pas été arrêtée. Et si elle était gendarme, je crois que en ce moment-là, on devait l'arrêter. Et puis aussi, elle faisait des vidéos et tout, personne ne l'avait inquiétée. Donc, j'avais dire que je n'ai pas trouvé que elle a été un peu gênante tout de même. Je n'ai pas cette impression-là. Mais ce que je voudrais dire, il n'y a pas de fumée sans feu. On ne va pas maintenant faire le procès, mais il faudrait qu'on aille justement au procès pour que on ait des débats contradictoires. Les avocats de Mme Nyakadet et puis le tribunal puissent débattre justement des grèves portées contre elle et qu'on trouve qu'on ait justement si les faits reprochés à elle ne sont pas établis, qu'elles soient élargies. Mais si malheureusement elles sont établies, on va regretter justement qu'il y aura une condamnation.
D'accord. Esaïe, c'est vrai, nous avons parlé du développement tout de suite et Eric en a fait cas aussi dans son analyse tout de suite. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que on veut juste alors détourner l'attention alors des Togolais sur l'essentiel?
Non, mais je ne sais pas qui veut détourner l'attention des Togolais sur l'essentiel. Est-ce que ce sont des gens d'ailleurs qui veulent le faire pour détourner l'attention des Togolais? Je n'ai pas vraiment compris le sens de la question quand il s'agit de détourner l'attention. Mais je tente de comprendre que, voilà, il y a des défis, comme Eric l'a dit, mais on ne s'y attaque pas et qu'on est là dans ces histoires de beaucoup plus politiques. Oui, quelque part, c'est aussi triste parce que, vous savez, depuis que le pays a basculé définitivement dans la 5e République, nous tous, on s'entendait à ce qu'il y a un élan de développement parce que à la veille du basculement, c'est ce qui a été vanté comme quoi dans la 5e République, il y aura, le Togo sera autrement. Mais là, on se rend compte que jusque-là, l'essentiel que l'on attend n'est pas encore fait, mais on est plus sur des questions politiques qui sont beaucoup plus liées au pouvoir. Et du coup, là, dans ce sens, je comprends l'inquiétude. Au même moment, je voudrais aussi dire, nous, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas des éléments pour affirmer ou infirmer tout de suite que voilà, c'est juste une situation qui est provoquée pour détourner l'attention de quiconque. On ne sait jamais, parce que les chefs d'accusation qui sont retenus contre Mme Niakade ne sont pas moindres. C'est sérieux, on a déjà connu dans le pays, donc il me serait un peu...
Et on connaît un peu aussi les peines alors de ces chefs d'accusation.
Justement, donc je trouve ça un peu, je ne sais pas comment je vais dire, mais je ne pense pas qu'on va s'amuser à aller sur ce terrain alors qu'il y a la question du développement qui nous attend. Maintenant, j'en viens maintenant à la question d'arrestation elle-même. Aujourd'hui, Mme Niakade est arrêtée. Nous le disons qu'il faut laisser la justice faire son travail. Eric a évoqué une situation tout de suite comme quoi, dans les bureaux, les gens ne travaillent plus. Les gens s'intéressent plus à cette question. Et c'est aussi une réalité. Et comment est-ce que les gens s'intéressent à la question? Les gens sont en train de douter de ce qui est reproché à Mme Niakade. Et la question, pourquoi est-ce que les gens doutent de cela? C'est parce que quelque part, il y a cette crise de confiance entre la population et les autorités. Quand le procureur a donné des explications sur l'arrestation, vous avez compris que personne, je dirais beaucoup de personnes, ne sont pas convaincues de ce que le procureur a dit, ce qu'il voudra dire, qu'il y a justement cette crise de confiance. Et cette crise de confiance fait qu'aujourd'hui, l'image du Togo n'est plus ce Togo que nous, Togolais, nous voulons avoir sur le plan international. Je dirais même que depuis 2017, avec les manifestations du 19 août et l'après-manifestation, le Togo a travaillé beaucoup pour améliorer ou pour donner une belle image à l'international. Mais aujourd'hui, avec cette situation, quand vous écoutez les médias, vous voyez que l'image du Togo commence de nouveau à être salie.
D'accord.
Et ça va même dans les bureaux. Mmh. Les Togolais même qui ne comprennent pas, qui n'ont pas confiance aux autorités. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la question de Niakade continuera toujours d'alimenter les débats dans tous les bureaux.
D'accord.
Qu'on ne soit pas surpris.
Effectivement, merci beaucoup. Chers confrères, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs pour qu'ils s'intéressent aussi au sujet débattu ici au Club de la Presse. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 50. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 315. Premier auditeur en ligne, allô.
Allô, bonjour.
Bonjour monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien, bonjour plateau.
Hey.
Oui, mais monsieur Eric et l'autre collègue avaient dit que les gens ne savaient pas bien dans le bureau. Mais ils ont raison, hein. Pas même pas dans le bureau. Dans la maison, les gens ne vivent pas bien. Les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer après le pays, mais vous voyez, non? On a trop de problèmes. Les gens vivent mal dans le pays. On n'a pas d'argent, il y a la vie chère, tout ça, et on arrête jusqu'à quand? C'était bonne journée.
Merci, M. Gado, pour votre intervention 90 86 35 35 91 36 315. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, le plateau.
Oui, M. Mauto.
Oui.
Allez-y.
M. Barcal.
Oui.
Permettez-moi de vous poser une question, s'il vous plaît. À chaque fois qu'il y a un classement sur le Togo, mon frère Eric, il nous donne des développements. Est-ce que vous, M. Pascal, est-ce que vous pouvez cela dans votre vie quotidienne ou bien vous sentez chaque jour au Togo ici? C'est ma question.
Monsieur Mouto.
Oui.
Ah ben, on est en train alors de faire des analyses sur l'actualité. Justement, c'est votre droit de ne pas être convaincu, mais l'essentiel, c'est de dire ce que vous pensez aussi de cela. Après, c'est tout.
Ok. Maintenant, j'ai un petit commentaire. Vous ne voyez pas que à chaque fois on fait des efforts, mais nous ne sommes pas dans le pays. ceux qui gouvernent ce pays, ils n'ont plus l'onction du peuple, quoi. Autant de formes, hein, nous n'entendons rien dans le pays. Rien ne bouge. Et ça veut dire qu'ils doivent passer la main à d'autres personnes, quoi. Moi, je pense qu'ils n'ont plus l'onction du peuple, quoi. Merci et bonne édition.
Merci pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Vos analyses nous intéressent au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Je salue les deux invités qui sont au-dessus de la table avec vous.
C'est trois.
Oui.
Trois invités.
Franchement, la dame, il paraît qu'elle est repartie parce que elle a de plus charge.
Tout à fait.
D'accord. Sinon, c'était à encourager. Parce qu'une dame, à ce niveau, déjà, c'est seulement. Nos enfants, nos petits frères, même pas dans le scandale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants s'adonnent à la lecture? Parce que tout est caché dans la lecture, dans les livres. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, même quand vous posez la question à un étudiant, je suis en troisième année à la lettre moderne, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand vous êtes en train de discuter avec ce monsieur, franchement, faut que les enfants lisent.
C'est bien.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas aussi notre rôle, nous, en tant que parents?
Allô?
Oui, bien, Sylvain?
Oui.
Est-ce que ce n'est pas notre rôle, en tant que parents aussi, de les amener à lire?
Oui, c'est aussi notre rôle. Mais moi, j'ai un enfant, franchement, j'ai parlé fatigué parce qu'il n'aime pas la lecture.
Mais est-ce que vous-même vous lisez auprès de votre enfant?
J'aime trop la lecture. Moi, j'aime. Même quand je trouve un bout de papier, quand c'est un texte, je prends, je lis.
D'accord.
Parce que je sais qu'il y a peut-être un mot que je vais chercher, sa signification qui va me faire avancer.
Tout à fait.
Mais j'ai expliqué tout cela à mon enfant. Franchement, c'est dans ma propre maison que j'ai remarqué ça. Les enfants ne lisent plus. Mais c'est la dame à encourager quand même. Merci. Et pour ces indices-là, comment ça se fait? Ça se fait et puis on place les Togo à ce niveau-là. Sur quel critère se base ces messieurs et dames, ces organisations internationales-là? Ils se basent sur quel critère pour ces indices? Expliquez-moi un peu. Rien ne va. Tout le monde crie à l'affaire. Franchement, il faut qu'on nous explique sur quels critères ces messieurs se battent pour ces places qu'on donne.
D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. Pour ce qui concerne la lecture, il est très important quand même que nous, en tant que parents, nous lisons aussi auprès de ces enfants parce que l'enfant apprend aussi par imitation. Allô?
Forever.
Allô, bonjour.
Donc, juste, je voulais rebondir sur les interventions de la dame pour vraiment l'encourager. Et je suis un auditeur fidèle de Canal FM, surtout au Club de la Presse chaque jour. Et donc, je voudrais demander à savoir si on ne peut pas un jour nous programmer toute la journée pour rien que sur la littérature, surtout togolaise. Parce que moi, précisément, j'aime trop ça. Et quand je suis ça, bon, ça m'intéresse tellement. Je n'aime pas rater surtout la journée de mardi avec Claude Assez-Baptiste.
Merci beaucoup. Rappelez-nous le nom. D'accord, merci. Il est parti. 90-86-35-35-91-36-63-75. Mais ça me fait tellement plaisir que vous aimez justement ce programme que nous vous proposons. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
Oui, c'est Nyamavo.
D'accord, allez-y.
Oui, effectivement, nous allons encourager les jeunes à lire. Comme quelqu'un le disait, aujourd'hui, les jeunes s'investissent dans les WhatsApp, dans les TikTok, ça fait que les neurones ne fonctionnent pas bien, ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas la technique de construction. Donc, à force de lire, on donne un exercice à notre cerveau. Donc, on doit encourager les jeunes à aller plus dans les livres que sur les portables. Oui, monsieur Eric, vous avez dit que la sortie de Niakadé, ça fait que les gens ne travaillent pas. Est-ce que ce sont les sorties de Niakadé ou bien c'est la 5e République? Est-ce que ce sont les sorties de Niakadé que retarde non, la formation du gouvernement.
Monsieur Diamavo.
Oui, allô.
Eric n'a pas dit que les sorties de Niakade font que les gens ne travaillent pas.
Ah, d'accord.
Oui,
je pensais qu'il dit que ça fait que les gens ne travaillent pas.
Non.
Donc, peut-être il faut la garder quelque part pour que les gens puissent travailler.
Non. Il parle de la situation dans le pays qui crée un peu de psychose.
Voilà. La situation émane d'où? Hein, c'est la constitution brutalement changée sans demander l'avis des Togolais. Merci, M. Eric. Là, chapeau à vous. Sinon, le Togo rime à l'apartheid. Donc, j'ai cherché le terme synonyme, c'est du ségrégationnisme. Vous voyez, on change la 5e République et c'est la même personne. Même entre eux, dans unir là-bas, il n'y a pas quelqu'un. On vient, on change, on donne tous les pouvoirs au PC. Et le président de la République n'a pas de pouvoir. Et vous comprenez, c'est du ségrégationnisme. Bonne émission.
Merci beaucoup, M. Niamavo, pour votre intervention. Je salue les invités. J'ai eu froid aux yeux quand votre invité au 21e siècle parle de l'eau de forage comme étant l'eau potable. Quelle analyse il fait de ces forages pour les déclarer potables? Merci et bonne journée. C'est Samuel Zéouzé de Gbatopé qui nous écoute, bien sûr, à Gbatopé 90 86 35 35. Allô?
Bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, togolaisement, on est là.
D'accord, allez-y.
Bon, la tête togolaise est devenue une tête de malheur.
Non, on ne va pas dire ça.
Pardon?
Basile, après tout, c'est notre pays.
Pardon?
Je dis après tout, c'est notre pays, on ne va pas dire ça sur notre pays.
Non, il ne faut pas vous cacher derrière ces vocables que c'est notre pays. Mais les gens là qui le font savent bien sûr que c'est notre pays. Mais écoutez, ils s'en foutent pas mal. C'est de ça que nous parlons. Mais ceux qui viennent là-bas, qui prêchent pour leur chapelle, eux, ils s'en foutent pas mal aussi. Ils trouvent leur compte dedans.
Basile.
Mais on ne peut pas prendre ce petit pays qui a tout. Et les gens n'arrivent pas à manger deux fois par jour. Mais c'est devenu une quête de malheur. Voulu par les gens. Qu'est-ce que vous voulez, Madame Niakade? Même si je suis plus âgée qu'elle, s'il y a moyen et qu'on doit la visiter là où elle est, je vais aller tous les jours pour la saluer et lui donner tout le respect qu'il faut au monde. C'est tout ça, moi je vous parle.
D'accord, merci.
Mais on ne peut pas être dans un pays comme ça.
D'accord, merci, Basile.
Merci.
Oui, merci beaucoup, Basile. Basile, je pense que, voilà, tout le monde qui nous donne alors l'opportunité de recevoir notre dernier auditeur. Je croyais que Basile était le dernier. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame ici.
Oui, bonjour. Je suis la dernière.
Oui, oui, justement.
Voilà, on rentre encore en ligne aujourd'hui. Voilà. Madame Rousseline est là. Elle est toujours là.
Non, madame est déjà partie.
Elle est partie, oh oui. Bon, elle a développé le thème sur les frontières. Je n'ai pas trop bien suivi parce que je roulais. Puis elle a dit, ce n'est pas parce que tu es tombé que tu vas plus te relever. Mais son système-là nous a mis à terre depuis une décennie, au moins 6 décennies, que son système à elle nous a mis à terre. Et puis, il ne veut pas relever le changement sur notre coup, hein, comme l'histoire de l'Américain. Et puis, il faut vous souvenir, vous les journalistes, quand la dame était ministre, elle avait dit à Palimé, je crois, moi je l'ai en tête encore, que si ça ne tenait qu'à elle, elle allait fermer
la presse, mais elle a menti, madame. Il faudrait quand même qu'il y ait l'exactitude des choses.
Pardon?
Il faudrait qu'il y ait l'exactitude des paroles. Ce que vous déclarez, est-ce que la dame l'a déclaré?
la dame m'avait dit que vous étiez à votre truc de à Palimé.
Je ne pense pas.
Je ne sais pas si tu étais aussi.
Je ne pense
elle
pas.
Elle avait dit ça.
Je ne pense pas. Je ne pense
les dames
pas.
Du merci, pouvoir, merci beaucoup,
madame.
Aussi
madame Messi, merci. Merci madame pour. Mais merci beaucoup, madame Messi. Je pense que on va revenir en plateau pour faire un dernier tour de table. Mais il est très important quand même que quand vous déclarez quelque chose, qu'il y a les attitudes alors des faits. Parce que nous sommes sur une radio très écoutée et l'émission est écoutée même d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national et dans beaucoup de sphères. Hein. L'émission est écoutée et quand vous venez déclarer quelque chose, il faudrait qu'il y ait l'exactitude de ce que vous êtes en train de dire et c'est ce que nous essayons de faire aussi à l'émission, dans l'émission Club de la Presse. Et merci aux auditeurs. Oui, Eric, nous allons faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission.
Non, je ris tout simplement parce qu'il y a des gens comme M. Basile là, je ne sais pas d'où il vient, mais il se comporte comme quelqu'un qui se jette à l'eau sans se demander si c'est profond ou pas. De tout ce que nous avons dit aujourd'hui, je ne pense pas que ces réflexions là reflètent effectivement ce que nous avons dit. Je suis désolé. Ce monsieur, je ne sais pas. Monsieur Nyamavor, qui a commencé par dire un truc, il n'a pas bien écouté. Si tu ne l'avais pas rappelé à l'ordre, il était dans un sens pour dire autre chose carrément. C'est pour ça que je leur demande toujours de suivre cette émission avec beaucoup de discernement. Faut pas trop mettre la passion. Faut pas. Et puis. Écoutez très bien ce que les développements des gens, quoi. Je suis désolé. Oui, nous avons un idéal qui nous amène loin. Si nous tous, nous travaillons en tant que Togolais, nous irons encore loin. Et je crois que cela y va de notre bien nous-mêmes. Aujourd'hui, je dis, il y a une psychose dans le pays. Et c'est vrai par rapport à certaines situations. Sauf que c'est nous que ça dérange et ça ne nous arrange nulle part. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on remette les balles à terre et qu'on aille loin. Voilà ce que j'ai dit.
Merci Eric. Oui, Isaïe.
Oui, moi je vais revenir sur le rapport qui a été remis hier. Je pense que oui, comme nous l'avons dit dans le développement, c'est un pas, c'est un pas qui a été franchi. Mais il n'est pas question de rester là à célébrer ce pas, parce que ce qui reste est énorme comparativement à ce qui a été fait. Et donc, il faut que tous nous nous mettons au travail, nos autorités au premier rang, pour que nous puissions combler l'écart qui est là, pour que la prochaine fois, quand le rapport sort, que les gens ne se fâchent pas, comme quoi ce sont des histoires qui sont racontées.
D'accord. Oui, Germain ?
Non, mais c'est intéressant qu'hier encore, l'assurance a été donnée à la remise du rapport que au plus haut niveau, au sommet de l'État, l'engagement est pris de poursuivre les efforts. Donc je crois que c'est intéressant, c'est réconfortant que les gens ne vont pas dormir sur leur laurier. Deuxième chose à dire, c'est par rapport à la littérature. Ça fait du bien, en tout cas, c'est une sorte de félicité d'écouter le public, en tout cas l'auditoire qui s'intéresse à la littérature. Et comme tu le disais tantôt, c'est aussi le rôle des parents d'offrir peut-être des bouquins à leurs enfants à la fin d'année ou à leur anniversaire ou pour donner des cadeaux aux enfants, il faut leur donner des livres. Et puis l'enfant, vous l'avez dit, apprend pas mimétisme. Est-ce que nous-mêmes nous lisons déjà très jeunes devant nos enfants? Donc il faut que les parents aient l'habitude de lire à la maison,
oui.
Peut-être merci. Lire en merci. Famille pour que merci. Ça rentre dans les habitudes.
Merci beaucoup, Germain Dubidi. Je rappelle que vous êtes alors le directeur de publication du journal Jeunesse Info et aussi du site d'information Interfrace. Merci à Eric Parcoudio-Johnson d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Merci à Isaïe Edo d'être passé dans cette émission. Isaïe, vous êtes le rédacteur en chef du journal Focus Info. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Thomas Itek aussi d'ATV qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutsa a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.